Les balado-diffusions Simplement plein air sont rendues possibles grâce à la participation des partenaires suivants.
Que ce soit pour vos animaux de compagnie ou vos animaux de ferme, la compétence porte un nom. Monsieur Bouffe, 25 Avenue Chaudière à Rouyn-Noranda, au 819-797-2564.à la ligne.
Action Kia de Rouyn-Noranda pour un choix de véhicule neuf Kia adapté à vos besoins, mais aussi un véhicule d'occasion fiable, sécuritaire et certifié. Venez rencontrer notre équipe qui saura vous conseiller le bon véhicule, comme le Kia Sorento, offert avec traction avant ou intégrale. C'est la qualité à un prix incomparable pour ceux qui aiment en avoir plus pour leur argent. De plus, notre expert en crédit vous accompagnera pour faire la meilleure transaction possible. Action Kia, meilleure garantie et meilleur service au meilleur prix.
On s'imagine pas qu'il y a autant de familles qui mangent pas à leur faim au Québec. Cette année, j'ai décidé de donner de la viande de gibier pour venir en aide à des familles de ma région. C'est pas compliqué. Je dis à mon boucher la quantité que je veux donner et un organisme passe pour aller distribuer la viande aux familles dans le besoin. Chasseurs, soyez donc généreux.
Le mercredi balado-diffusion chez Simplement plein air, on y retrouve de tout pour tous, sauf la chasse, sauf la pêche, car c'est le lundi pour la pêche et le vendredi pour la chasse. Simplement plein air, de la balado-diffusion à son meilleur. Et voilà, on est de retour et comme à toutes les semaines, on a un chroniqueur qui nous parle de délices de la nature que l'on retrouve dans la nature. Et pour ce faire, ben naturellement, on discute avec une personne qui est conférencier, qui est éditeur, qui est auteur. Il a tous ces talents-là. D'ailleurs, tout ce que toutes mes connaissances viennent pas de moi, mais viennent du livre de Monsieur Roger Larivière, Plantes comestibles et médicinales. Bonjour, M. Larivière.
Oui, bonjour.
Pour les habitués, naturellement, ils savent. Hein, ils disent, ah, ben oui, mais il y a beaucoup de nouveaux auditeurs qui se joignent à nous. Et puis, la semaine dernière, on avait parlé de la fameuse marguerite. Donc, si vous avez manqué ça, allez au balado-diffusion du mercredi. Et vous allez voir tout ce qu'on peut faire avec la marguerite. Mais là, cette semaine... Moi, c'est un coup de cœur, puis je pense que c'est un coup de cœur pour beaucoup de gens, la fameuse menthe du Canada.
Et oui, et c'est une plante qui est tellement facile à reconnaître aussi sur le terrain. Excusez, parce que comme vous disiez hors d'onde tantôt, et on l'a souvent vécu, c'est qu'on ne la voit pas, mais on la sent. Et on a les deux pieds dedans, puis les odeurs de menthe nous arrivent dans le nez, puis on se dit « ça se peut pas ». C'est une plante qui est quasiment magique, elle nous invite à la déguster. Alors, et non pas à l'arracher comme si c'était ce qu'on appellerait une mauvaise herbe, puis à s'en débarrasser. C'est vraiment une gâterie qu'on se fait.
Oui, effectivement, parce que comme vous le dites si bien, moi... J'ai eu la chance, si on veut, d'être élevé par un papa qui aimait la nature, une famille qui aimait, qui adorait la nature, et que finalement, ben naturellement, on a été élevé à aller cueillir beaucoup de plantes dans la nature. Et quelques années, avec un S plus tard, justement, comme je vous le mentionnais, assis sur le bord d'une rivière, à la pêche à la mouche, je trouvais que ça sentait donc bien bon. Et puis, laissez-moi vous dire une chose. J'étais assis dans une méchante talle de menthe sauvage. Oh là là, que j'en ai profité. Mais c'est souvent comme ça que ça arrive. Hein?
Ben oui. Mais c'est heureux que ce soit comme ça. Mais il y a des gens qui cherchent cette plante-là aussi. Puis je pense qu'il faut savoir d'abord que c'est une plante qui affectionne les milieux humides. Alors, on va la retrouver, je vous dirais, en bordure des barrages de castors, en bordure des cours d'eau, Puis elle va aimer aussi le soleil, mais elle va aimer aussi être protégée par les autres plantes qui sont autour. C'est pour ça qu'on la voit pas. Et on la reconnaît facilement par d'abord quand elle est en fleur, on voit très bien ces toutes petites fleurs qui sont collées sur la tige. On appelle ça, nous les botanistes, les fleurs sont localisées à l'aisselle des feuilles. Puis très, très spécial pour la menthe du Canada ou la menthe poivrée, c'est à peu près les mêmes caractéristiques. Les feuilles sont opposées. Alors, et la tige est carrée. Ouais. Alors ça, c'est une caractéristique qui est extrêmement importante. Quand on trouve une plante qui a cette odeur de menthe et qui a des feuilles opposées et la tige carrée, ben écoutez, on se trompe pas, là. Il faut chercher l'eau chaude, puis oui, on déguste.
Oui, effectivement. Puis moi, un des trucs que j'avais appris aussi, c'est que justement, oui, la tige carrée, et on prend toujours une feuille et puis on la broie entre nos doigts. Et puis là, on dirait que ça réchauffe encore plus l'huile, si on veut, ou en tout cas, ce qu'il y a à l'intérieur de la feuille, là. Et puis, oh my, qu'est-ce qui se dégage de là? C'est pour ceux qui aiment la menthe, là, je pense que c'est le summum de la senteur, là, c'est tellement, tellement une belle senteur, une bonne senteur.
Oui, et puis d'ailleurs, pour faire du pouce sur ce que vous êtes là, écoutez, au niveau de la comestibilité, on sait très bien que la menthe, parce que c'est terriblement connu aussi, parce qu'on prend souvent après les repas pour digérer, on va prendre une tisane à la menthe, alors elle a vraiment des propriétés digestives. Et on va donc l'utiliser pour faire des infusions à cause de ça, mais aussi elle entre dans la fabrication des gelées qu'on peut servir avec de l'agneau, puis même d'autres viandes cuites. Et ah oui. Ce qui est très agréable quand elle est séchée, cette plante-là, parce qu'elle est facile à sécher aussi, on a juste à la déposer dans un endroit sec, puis elle va sécher très rapidement parce que les feuilles sont minces, la tige aussi. On va prendre les feuilles, puis on va les broyer, puis on met ça sur de la crème glacée. Alors imaginez-vous qu'en plein été, comme ça, avec nos feuilles qu'on a récoltées de menthe, puis on se fait une bonne crème glacée, puis en même temps, la menthe fait digérer la crème glacée, donc on est sûr de jamais prendre de poids en mangeant avec la menthe.
Effectivement. On se donne une bonne conscience en faisant ça, là, mais la menthe, finalement, on la retrouve dans quel environnement?
Ben oui, c'est ça. C'est des endroits humides habituellement. On retrouvera jamais la menthe. Écoutez, dans les bords de route, des endroits où il y a du gravier ou du terrain sec abandonné. C'est une plante qui aime vraiment, vraiment les endroits humides. Le long des rivières ombragées, même le bord des lacs, comme je disais tantôt, tout près des barrages de castors. En tout cas, moi, je me rappelle par expérience, là, j'étais comme vous, dans une talle de membres du Canada et j'avais les deux pieds dedans, puis dès que, clac, l'odeur nous monte dans le nez, puis on la découvre comme ça aussi.
Oui, c'était
très beau plaisir.
Oui, effectivement, puis on peut en faire aussi de très bons vinaigres. Hein, il y a des vinaigres à base, finalement, de menthe. Et comme vous l'avez dit, on peut se servir de la menthe là, de toutes les façons possibles. Quand on la fait sécher, naturellement, on peut aussi encore s'en servir en tisane. Il y a beaucoup de gens qui pensent, puis je ne sais pas d'où ça vient, mais quand c'est bien déshydraté, il n'y a pas de problème. Là, ça ne perd pas de goût, ça perd pas. En tout cas, moi il y a beaucoup de gens qui me disaient, ouais, moi, je l'aime beaucoup. C'est sûr que la menthe fraîche, ou peu importe la plante qu'on peut consommer fraîche, c'est toujours mieux, là. Ça, c'est sûr. Mais de déshydrater, oui. elle perd pas grand-chose. En tout cas, moi, c'est sûr, on voit une différence. Là. La fraîcheur est, bon, la déshydratation, mais il y a une façon aussi de réhydrater cette feuille-là. C'est parce que les gens la font peut-être bouillir, je ne sais pas trop, mais moi, je n'ai jamais vu qu'elle perdait beaucoup de ses attributs,
absolument pas,
si on veut.
Oui, puis même pas de parfum non plus.
Non,
moi, j'en ai récolté l'année passée. Là, écoutez, ça fait pratiquement un an. J'en consomme encore pratiquement aussi à tous les jours de la menthe. Puis moi, évidemment, quand je prends mes tisanes après le repas du soir, ben ce qui est bon aussi pour les gens qui connaissent les plantes en général, les plantes sauvages, ben ils vont mélanger des plantes sauvages. Alors moi, ce que je fais, c'est que je mélange du thé de Labrador, de la menthe du Canada. Puis, je me mets tout le temps aussi le fameux lichen dont on a déjà parlé ici à votre émission, à votre
chronique, ouais, Lucenay Barbu,
oui. Oui, puis je mets des fleurs séchées de l'épilum aussi. Il y a tellement de choses qu'on peut faire avec toutes les plantes sauvages. Puis moi, ce que j'aime, puis ça, c'est un conseil que je donne aussi à tous nos auditeurs, c'est qu'écoutez, quand vous en récoltez, vous les faites sécher, vous les gardez, ben écoutez, à tous les soirs, surprenez-vous en faisant des tisanes avec un mélange de vos plantes séchées. Puis vous allez avoir, à un moment donné, vous allez trouver quelque chose qui va vous dire, ben c'est ça que j'aime le plus.
Absolument.
À un moment donné, puis on change à chaque jour, donc on peut être très imaginatif.
Absolument, absolument. Hey, écoutez, M. Larivière, le temps file rapidement. On sait que, naturellement, vous êtes conférencier, vous êtes auteur, vous êtes éditeur de bouquins. Si on veut de l'information là-dessus ou réserver vos services, on pourrait le faire de quelle façon?
Écoutez, vous allez sur mon site web, naturat.ca, naturat.ca. Et là, vous avez évidemment la liste de mes ouvrages. Vous avez aussi la liste de mes activités. Cette saison, il y en a plusieurs qui ont été annulées, mais je vous dirais qu'il y en a d'autres qui se présentent, puis il y en a d'autres qui ont été conservées. Alors, voilà, puis je suis sur Facebook.
Oui, informez-vous, vous allez voir, il y a beaucoup d'endroits où on peut retrouver M. Larivière. Et n'oubliez pas, joignez-vous à nous la semaine prochaine. On va parler de une petite plante qui a été souvent la plante qui était un petit peu tough pour les mamans avec les filles avec des grands cheveux où les petits gars aimaient bien envoyer des petits tocs dans leurs cheveux. On va parler de la petite bardane.
La petite bardane, ben oui.
Oui, monsieur. Donc, manquez pas ça la semaine prochaine. Monsieur Larivière, vous passez une excellente semaine. Bonne cueillette.
Oui, bonne semaine à vous.
Simplement plein air, c'est de la balado. Simplement plein air, c'est de la radio. Et maintenant, simplement plein air, c'est de la vidéo. Et oui, profitez-en pour visiter notre canal YouTube Simplement plein air et abonnez-vous. Après tout, Simplement plein air, c'est pour vous. Et voilà, prise 2, on est de retour avec la chronique, une chronique qu'on affectionne beaucoup. Notre chronique bière, et pour ce faire, ben naturellement, j'accueille notre chroniqueur, M. Kevin Plante-Germain, de l'Âge de bière, de la balado-diffusion L'Âge de bière, je devrais dire. Salut, Kevin!
Salut, mon cher Guy!
Hey, tu vas nous parler cette semaine d'une bière qui m'a fait un peu sursauter quand j'ai vu le nom, et je t'en ai parlé une couple de fois, mais tu voulais pas brûler de matériel. On va parler de la Grisette d'Épautre, de la microbrasserie Robin Bière Naturelle de Waterloo, au Québec.
Ben oui, effectivement, une microbrasserie qui a déjà commencé à faire un peu son mythe à travers le Québec dû à la qualité de ses produits, puis on va dire un peu à la rareté de la chose. Puis ils ont un branding quand même assez spécial dans le sens où que c'est des étiquettes super sobres, qui sont présentés avec des gros formats de bouteilles. Puis j'avais beaucoup vu passer cette bière-là sur les réseaux sociaux. Et à ma surprise, je passe dans la belle capitale nationale l'autre fois et je vais au magasin qui s'appelle Alimentation L'Impact, qui est d'ailleurs le magasin de bière le plus énorme que j'ai jamais vu de ma vie. Il y a tout, et j'ai tombé là-dessus, et j'ai fait « Oh mon Dieu, j'en ai acheté », et j'ai dégusté ça, puis je vous en parle aujourd'hui.
Et puis quand on parle d'un épeautre, naturellement, qui est une farine, finalement, l'épeautre qui est une plante?
Oui, en fait, c'est comme une espèce de cousin du blé, c'est européen, ouais. C'est français, et ils ont utilisé cette céréale-là pour faire cette bière-là, qui est quand même relativement peu utilisée là, en microbrasserie, fait que j'étais curieux. Puis c'est une bière de type grisette qui est une lager française, d'origine française en fait. Donc on a comme un petit concept derrière là, les produits d'origine française. C'est une grosse bouteille de 750 millilitres qui est offerte. C'est une bière qui est affinée en tonneaux de chêne dans lequel on a ajouté de la lactobacille pour ajouter un petit côté un peu surette. Elle est houblonnée aussi à froid avec les houblons cascade. C'est une bière quand même légère. On parle de 4,9%. Il y a un indice d'amertume bas. On parle de 18 approximativement d'IBU. Donc, c'est une bière légère. C'est une bière qui s'annonce très croquante.
Donc, c'est une bière, si on veut, là, une bière plus d'été, hein? Parce que
une bière
c'est
de rafraîchissement.
Rafraîchissement, oui, ouais, c'est ça, par température chaude, là. Mais ça, je sais pas, tu sais... Moi, ça me fait un peu drôle, une bière d'épeautre qui... Le goût de ça, là, comme tu le dis, c'est un peu spécial.
Ben, tu sais, je te dirais, honnêtement, je n'ai jamais consommé de l'épeautre dans sa version céréale ou dans une recette ou quoi que ce soit. Donc, j'avais pas vraiment de point de repère sur lequel me baser pour identifier ça. Seulement, j'ai trouvé qu'au niveau de la saveur, on se rapprochait d'une bière de blé. OK, donc, tu sais, c'est quoi la différence exacte? Je suis pas, j'ai pas vraiment de point de repère par rapport à ça. Mais c'est une bière blonde, là, dans le fond, quand on la verse dans le verre, blonde pâle avec un petit voile modéré, une mousse blanche, petite bulle homogène, là, super belle, soutenue par une belle effervescence également. C'est beau à voir. Au nez, ça sent la paille, le citron. Puis le grain de blé. C'est ça, tu sais, ça sent un peu ça sent un peu la lager, mais un peu plus céréalière, si je pourrais me permettre. Il y a une touche qui est boisée en fond, là, due au vieillissement en fût. On a le petit côté funky, le petit côté fermier qui revient aussi là, à l'odeur. On sent que ça va être un peu surette, un peu acide. En bouche, c'est des notes céréalières croquantes, sèche qui aborde le palais, donc pas de sucre résiduel. On a le petit côté chair de citron là, qui est conféré par le houblon cascade. Donc, on a le petit côté boisé en arrière qui soutient tout ça. Il est accompagné de fines effluves funky qui restent sur la langue. Là. Mais tu sais, rien de trop extrême là, comme une grosse Brettanomyces ou quelque chose comme ça. C'est quand même tranquille. Final, tout aussi sèche, d'une subtilité là, au niveau de l'amertume qui est herbacée. C'est délicat. C'est un équilibre parfait. C'est une bière de rafraîchissement qui est complexe. Donc, elle est complexe, mais légère. Donc, tu sais, on n'a pas l'espèce de gros coup de poing de saveur qui rentre et qu'on doit s'analyser. Non, c'est doux, c'est soyeux. Honnêtement, tu sais, c'est la première fois que je buvais du Robin. Celle-là, c'est un véritable chef-d'œuvre. J'ai vraiment trippé raide sur cette bière-là. Ça se hisse très, très haut dans le style des grisettes que j'ai pu goûter, en tout cas au niveau québécoise. Puis, c'est maintenant, ça fait partie, honnêtement, d'une bière que je vais me mettre à la recherche constante. Tu sais, si je retourne à Québec, je m'en ramasse deux, trois. Tu sais, parce que c'est vraiment hors du commun. Ça faisait longtemps, Guy, très sincèrement, que j'avais pas été autant impressionné par une bière. C'est dur de mettre les mots sur ce que ça goûte parce que c'est vraiment particulier, mais c'est doux. C'est rafraîchissant, c'est croquant, c'est délicieux. C'est vraiment délicieux.
Donc, c'est à demander chez notre fournisseur de bière s'ils l'ont pas, hein, parce qu'à ce moment-là, ça vaut la peine. Hein, j'imagine, là, quand on aime une bière ou quand on a la curiosité, comme tu nous l'as décrit si bien, ça vaudrait la peine de demander à notre soit dépanneur de bière ou notre petite boutique où il y a de la bière spécialisée, de leur demander hein, à ce moment-là.
Oui, c'est ça. C'est comme ça. Eux ont le pouvoir de commander si les fournisseurs ont le produit. Puis si vous voulez un certain produit, une microbrasserie à précise, demandez-le. C'est vraiment eux qui ont le gros bout du bâton, puis c'est eux qui font rentrer ça. Puis parlez-en aussi, c'est la meilleure affaire à faire. Si vous en parlez à une bière que vous appréciez, parlez-en à vos amis, à votre famille, puis s'il y a plusieurs personnes qui les demandent dans votre dépanneur microbrasserie du coin, c'est comme ça que vous allez l'avoir.
Oui, absolument. Et puis toi, tu dirais, là, cette bière-là, si on aurait, on bouffe, on s'en va sur une terrasse quelque part, on sait que les terrasses vont rouvrir, là, tout est ouvert, je devrais dire, on veut déguster, ils ont cette bière-là, là. On retrouve cette bière-là, tu boufferais ça avec, tu prendrais ça avec quelle bouffe, je devrais dire.
Ben, tu sais, c'est une lager, donc c'est une bière qui a des propriétés rafraîchissantes céréalières. J'irais avec, tu sais, on peut y aller avec du poulet, que ce soit grillé ou frit, une salade, une chose, quelque chose de léger, tu sais, pas quelque chose de trop goûteux. Fait que, tu sais, on va prendre un poulet barbecue, pas rien de trop épicé, ou un poulet aux fines herbes, des choses comme ça. Ça va, je pense que ça va bien s'imbriquer. On pourrait y aller peut-être avec des fromages fins un peu plus à pâte plus tendre, plus léger. Peut-être un petit mode, là, une pizza, par exemple. Ça peut être très bon avec la pizza, cette bière-là, bien nous penser. Là. Je la conseillerais avec... Ou simplement que ça.
Ah, ben c'est le fun. Et puis, écoute, Kevin, on sait que la balado-diffusion L'Âge de bière va très, très bien. Quand est-ce la prochaine?
Tous les jeudis, en fait.
Tous les jeudis?
Tous les jeudis, un épisode en arrière de l'autre, la saison 2 qui est en cours. Beaucoup d'invités, beaucoup de gens, beaucoup de microbrasseries aussi qu'on reçoit. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, L'Âge de bière. On est sur Twitter, on est sur Instagram. On est disponible sur tous les balados diffuseurs Android, Google Play, Apple Podcasts, Spotify, Balado Québec. On est partout là-dessus. Vous pouvez nous suivre. Et on est maintenant aussi sur Patreon.
Oui, puis moi, j'encourage les gens, naturellement, toujours de contribuer. On sait que Patreon n'est pas tellement connu au Québec. Commence, là. Ça commence à être connu. Les gens commencent à s'y identifier, mais croyez-le ou non, j'ai même eu, à un moment donné, quelqu'un d'un domaine dans les communications qui me demandait c'était quoi une balado-diffusion. Donc, on a encore un peu de chemin à faire si on parle de balado, podcast et ces choses-là. Donc, nous, la semaine prochaine, à ne pas manquer avec Kevin, on va parler de la petite chasse. De la chasse peinte qui est une microbrasserie de Lens-Saint-Jean. Et on va peut-être en parler un petit peu plus souvent de Lens-Saint-Jean par les temps qui s'en viennent. Donc, ça pourrait arriver. Donc, écoutez, bonne semaine, bonne bière, mon cher Kevin. Et si vous dégustez une bière, ben soyez toujours prudent. Prenez pas la bière et le volant.
Bien dit.
Et voilà. Donc, bonne semaine, Kevin.
On s'imagine pas qu'il y a autant de familles qui mangent pas à leur faim au Québec. Cette année, j'ai décidé de donner de la viande de gibier pour venir en aide à des familles de ma région. C'est pas compliqué. Je dis à mon boucher la quantité que je veux donner et un organisme passe pour aller distribuer la viande aux familles dans le besoin. Chasseurs, soyez donc généreux.
Et nous voilà de retour. Cette fois, on va aller rejoindre notre chroniqueur qui est au nord du 53e parallèle. Pour ceux qui sont habitués, bien naturellement, il s'agit de M. Sylvain Paquin. Et pour ceux qui sont nouveaux ou qui arriveraient là, tout bonnement comme ça sur l'émission ou la balado-diffusion, ben, on a un chroniqueur qui est au nord du 53e parallèle et qui est une chronique chez nous depuis maintenant. Combien ça fait de temps, là, Sylvain?
Bonne question.
Enfin,
d'un an, en tout cas, ça, c'est ce que je peux dire. Plus d'un an.
Oui, parce qu'on a passé, il me semble, deux hivers faciles. Je te dirais, moi, pas loin du 2 ans pour moi, le côté là. Mais là, écoute, le nord, au nord, là, t'es dans une chaleur cette semaine, toi-là, là?
Oui, une vague de chaleur depuis dimanche. Ce matin, on parle de vers 8 heures, faisait 25, 28 avec l'humidex. Pratiquement pas de vent, 35 % d'humidité relativement relative,
oui.
Fait que non, oui, ils nous annoncent ça pour toute la semaine, avec des pointes à 32 en frais de température. Fait que ça va sécher, ça va être dangereux pour les feux de forêt. Humidité, chaleur veut dire moustique, fait que c'est la totale, quoi.
Oui, puis c'est ça, je voulais un petit peu aller aborder, si on veut, là. Tu l'as bien dit, il y a beaucoup de gens présentement qui sont sur la route. Et ont-ils ouvert finalement là, les fameux arrêts sur le long de la route?
Non, à date, aucune halte routière d'ouverte. Le camping de Radisson, aux dernières nouvelles, fermé aussi. Beaucoup de campeurs, beaucoup de gens qui viennent en tente. Tu vois, j'ai des gens qui voulaient venir voir les animaux dimanche. Puis il était 6 personnes en camping. Puis comme je leur ai dit, c'est sûr et certain qu'à 25-27 degrés, oubliez ça, les animaux, avec les moustiques qui vont se cacher, là. Mais oui, beaucoup de monde. Rien est ouvert pour tout de suite. On attend là, peut-être des bonnes nouvelles cette semaine. On se croise les doigts parce que de plus en plus les gens viennent et campent un peu partout. Beaucoup de roulottes, vraiment. Des motos aussi, beaucoup. C'est vraiment fou cette année, le nombre de motos que je vois. Il ne reste pas vraiment longtemps, je te dirais, une nuit, puis oups, ça repart tout de suite.
Ouais, c'est ça. Là, ils se font trop manger par les babites. Mais tu disais, ça engendre beaucoup de problèmes, par exemple, parce que finalement, les gens campent un peu où ce qu'ils veulent, et puis ça pourrait causer des problèmes, là. Tu sais, les gens vont dans le bois faire leurs petits besoins, les gens, c'est pas trop fameux, là.
Ben, effectivement, c'est pas trop fameux, puis faut pas se le cacher. C'est la réalité, tu sais. Je crois que c'est plus facile et plus sécuritaire de camper dans une halte routière sur le bord de la route que de prendre un chemin, se taper 2 kilomètres, faire un petit endroit pour se camper proche d'un lac, se faire un feu, faire notre numéro 2, numéro 1, mettre notre grotte bacon dans le rond de feu improvisé. C'est sûr que le potentiel de dangerosité, il est là. Mais c'est la triste réalité, puis ça a l'air que cette année, il faut vivre avec.
Oui, puis ça, c'est très, très malheureux, comme on dit. Là, tu l'as bien dit, hein? Les gens vont sortir un peu, un petit chemin, bon, ils vont aller camper là, faire un feu, parce que finalement, il y a tellement de moustiques, de mouches noires, là, par les temps qui courent, qu'il faut qu'ils se fassent de la boucane, puis toute la babelle. Mais là, en faisant ça, naturellement, on va aussi à l'encontre de ce que, là, peut-être, là, à cause de la pluie, mais ils vont à l'encontre de la sop-feu dans bien des cas où il y a restriction de feu à ciel ouvert un peu partout au Québec. Donc, on enfreint cette loi-là, on enfreint la loi du camping et on se met en danger parce que quand on va dans des endroits comme l'Abitibi, quand on va dans le Grand Nord, Yuichi, dans ces coins-là, il y a de la bébite qu'on appelle les ours. Puis les ours, ben, ils ont deux buts dans la vie. Leur premier but, là, c'est de manger. Puis le deuxième, c'est de s'accoupler. Donc, s'accoupler, on va enlever ça. Il en reste un danger pour l'humain, c'est la bouffe. Mais la bouffe, là, c'est pas parce que c'est des prédateurs, les ours. C'est parce que là, écoutez, vous leur offrez de quoi d'exceptionnel. Vous leur mettez une senteur qu'ils peuvent sentir à 20 km de là, ben, ils ont faim. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'en aller vers votre campement. Il y a de fortes chances que vous ayez des mauvaises surprises.
Ah, absolument, mais ça, qu'est-ce que tu veux, c'est un peu la réalité, mais trop souvent ignorée. Je veux dire, tu sais, du gras de bacon ou de la cuisson, quand tu mets ça dans ton rond de feu, parce que tu veux pas nécessairement aller le mettre dans le bois, ben, c'est sûr et certain que tu peux peut-être avoir des mauvaises surprises à 2 heures du matin, là. Mais, tu sais, c'est un peu le problème. Puis, ben, aussi, avec l'avenue des réseaux sociaux, les téléphones intelligents, ben, c'est le fun de photographier des ours. Oui, c'est le fun de photographier des ours. Mais avec ton téléphone à 2 heures du matin ou à 5 heures le matin, quand il est en train de démolir ton campement, c'est pas vraiment le temps, là.
C'est ça. Puis,
Mais c'est notre triste réalité. Puis, de plus en plus, je pense que moi, ce que j'appelle le syndrome de la pensée magique, ben, il n'y en aura pas de problème. Là, c'est bien quand il y a de la pluie, comme on a eu dans les dernières semaines, mais là, on s'en va sur une vague de 30 degrés. Là. 30 degrés avec le côté sec qu'on a, je peux te dire que à partir d'aujourd'hui, la dangerosité pour le feu, ça va être extrême.
Oui, ben c'est ça, elle se multiplie là, à ce moment-là. Et puis, la fameuse pensée magique de dire, ben moi, l'ours, il viendra pas chercher ma bouffe parce que je mets mon Coleman dans ma tente. J'ai déjà vu ça, crois-le ou non. Oui.
Ah, ben.
Donc, oui. Il ne peut pas rentrer dans une tente, l'ours, naturellement. Oh là là. Tu sais, c'est ça, c'est des facteurs qu'on. Tu sais, après, on va dire l'ours est dangereux. Non, l'ours n'est pas dangereux. L'humain est beaucoup plus dangereux que l'ours dans ses façons de faire les choses. La logique est là. Faut prévaloir. On le sait, on le dit tout le temps. Accrochez votre bouffe d'un arbre. Ben non, voyons donc, l'ours grimpe d'un arbre. Oh my God. OK. Tu sais, il n'y a pas de... Puis même la mettre dans son véhicule, là. Tu sais, c'est toujours mieux de le mettre dans le véhicule, mais on laisse les vitres baisser. Ben, pas baisser au complet, mais un tout petit peu pour pas qu'il fasse trop chaud dans le véhicule. L'ours est
ouais,
capable
souvent,
de rentrer.
Mais pas, le, souvent, oh, ben oui, absolument. À force qu'il va baisser la vitre, et tu vois, c'est arrivé, moi, c'est arrivé il y a quelques années. On était faire une randonnée, la personne a stationné son véhicule, mais a oublié de fermer, a oublié de barrer les portes. Quand on est revenu, il y avait un ours en train de vider son auto, puis il y avait un autre ours de l'autre côté, la porte fermée, qui attendait juste que le premier finisse.
C'est ça.
On a réussi, après 25 minutes, de faire comprendre à l'ours que c'était le temps de s'en aller. Mais le premier s'est en allé, le deuxième a voulu rentrer. Mais le deuxième, non. Lui, il est dominé par le premier. Fait que peux-tu te dire qu'il se foutait éperdument de nous autres? Là? À un moment donné, je dis à la personne, je dis, t'as-tu mangé dans ton véhicule depuis que t'es monté? Il dit, oui, j'ai fait du camping dans mon véhicule, j'ai mangé. J'ai dit, t'as-tu du chocolat, des petits fruits? Oui, j'ai tout ça. Fait que j'ai dit, écoute, faut absolument l'empêcher de rentrer parce qu'il va tout démolir. Il va aller chercher la petite pépite de chocolat qui est autour de ton banc. Ouais. Mais je peux te dire qu'on l'a travaillé. C'est comment ça qu'il l'a ouvert? On a regardé les traces, puis il l'a ouvert comme un humain, avec ses griffes, clic-clac, il a ouvert
absolument.
La porte. Bonsoir à l'époque, tu
sais. Écoute, Sylvain, ça roule. On sait que toi, naturellement, tu fais de la photographie animalière. Et là, avec le déconfinement, tu peux naturellement recevoir des gens. Et puis, si les gens ont besoin d'informations ou de réservations, ils peuvent le faire de quelle façon?
Manière la plus simple, www.animalparking.info. Vous faites une petite recherche avec Animal Parking, vous allez trouver ma page. Et cette année, Guy, j'ai aménagé justement des journées spécialement pour grand public et famille. N'hésitez pas. On va faire le tour des beautés de notre Nord et ça va me faire plaisir de répondre à vos questions.
Oui, puis c'est beau le Nord. Il faut le garder sauvage. Donc là-dessus, mon cher Sylvain, nous, on se rejase la semaine prochaine.
Excellent. Bonne semaine, Guy.
Simplement plein air, c'est de la balado. Simplement plein air, c'est de la radio. Et maintenant, simplement plein air, c'est de la vidéo. Et oui, profitez-en pour visiter notre canal YouTube Simplement plein air et abonnez-vous. Après tout, Simplement plein air, c'est pour vous.
Bonjour à vous tous, ma belle gang de passionnés, et bienvenue à cette nouvelle chronique photo plein air avec Vincent Delisle et François Desrosiers. Aujourd'hui, de quoi qu'on va parler? D'un sujet qui est important, en tout cas, pour bien des situations, puis qui va vous permettre peut-être d'arrêter des fois, de vous empêcher, ou en tout cas diminuer le nombre de fois que vous vous empêchez d'amener votre appareil photo lors d'une excursion. C'est-à-dire des petits trucs que ce soit du matériel ou même des trucs faits maison pour essayer de protéger votre appareil photo d'un de ces pires ennemis, l'eau. Puis pour en parler, hein, bien sûr, j'invite François à se joindre à la conversation. Donc, François, comment ça va cette semaine?
Ça va très bien. Toi, Vincent?
Hey, numéro un, l'été avance et c'est parfait comme ça, c'est numéro un. Ça fait du bien de pouvoir prendre l'air et de se chauffer au soleil.
Ça, même quand il mouille. Parce que oui, c'est pas parce qu'il y a de la pluie que ça nous empêche de faire de la photo. C'est pas parce que c'est humide, c'est pas parce qu'il neige qu'on peut pas faire de la photo. C'est juste qu'il faut être bien préparé.
Exact. Puis il y a différentes façons. Il y a des façons homemade, puis il y a des façons qu'on peut se procurer aussi chez le détaillant du coin. La plus facile, ce serait de s'acheter le case qui est associé à notre appareil photo. Parce qu'à ce moment-là, vous allez peut-être même être capable de faire de l'immersion avec votre appareil. Mais ça, c'est un très, très gros investissement, acheter le case d'immersion. C'est quoi les autres options qui sont plus abordables ou même des fois faites à la maison?
J'aurais dit, avant même ça, c'est d'acheter un appareil avec objectifs qui sont résistants aux intempéries. Parce que ça existe, certains appareils, souvent on les a dans des appareils plus haut de gamme. Donc, des fois, si on dit, ben moi j'en fais souvent, je suis à l'extérieur, Si vous connaissez Éric Deschamps, qui est un photographe qui est dans le bout de CAPTCHA, il fait des photos absolument extraordinaires dans toutes les températures, bien, c'est sûr que ça prend un équipement qui est capable de supporter des températures pas le fun. Mais si on n'a pas ça, donc là, il y a moyen. Tu sais, dans le fond, c'est comme nous autres. On prend pas l'eau, mais des fois, c'est pas agréable d'être mouillé. On va se mettre un imperméable. Donc, il y a aussi des espèces d'imperméables pour les appareils photo. Il y en a que c'est des... Tout simplement, c'est comme ça ressemblerait à une espèce de ziploc, à la différence que vous allez avoir au bout comme une espèce de filtre à différentes grandeurs pour mettre après notre objectif. C'est-à-dire que j'aurais comme ça ressemblerait à un appareil photo flou, là, que savoir c'est un sac ziploc qui rentre par-dessus notre appareil avec un filtre en avant.
OK, donc ça ressemble un peu au fil qu'on a parlé dans une autre de nos capsules précédemment. Oui. C'est-à-dire qu'il y a un fil qui va permettre d'éviter qu'on ait l'air d'avoir un plastique tout chiffonné en avant de la lentille. Mais le reste est un plastique chiffonné, oui, entre parenthèses, qui nous permet de manipuler notre appareil photo sous la pluie sans qu'il soit en contact avec ces gouttes-là.
Un petit peu mieux que ça, la même affaire, mais avec de la place pour mettre nos mains. Donc, il va être complètement fermé. Au lieu d'avoir les mains en dessous, j'aurai les mains qui rentrent dedans. Donc, comme... comment je dirais, c'est ça, des gants qu'on utilise présentement pour la COVID, pour ne pas l'avoir. Donc, je suis capable de rentrer mes dents, donc de façon à avoir accès à tous mes contrôles sans qu'il y ait de risque d'avoir de pluie ou encore de poussière.
Okay. Et ça, d'avoir un meilleur contrôle que le sac qui fait perdre un peu de dextérité.
C'est ça. Et là-dedans aussi, il va y avoir différentes qualités dans le sens qu'une personne, ben moi, j'en fais une fois de temps en temps. Je n'ai pas besoin d'avoir la super qualité, mais quelqu'un qui dit ben moi, j'en fais tous les semaines, puis il mouille tout le temps quand je m'en vais faire de la photo, on dirait qu'ils le savent. Ça veut dire que là, je pourrais avoir quelque chose qui va être plus résistant. Si vous faites de la photo dans le bois où il y a des branches, bien là, c'est sûr que ton autre en petit plastique mince risque de se déchirer. Est-ce qu'un plus gros, ça va être mieux? Il y en a d'autres que c'est fait comme, on dirait, en peau d'homme grenouille. Tu sais, en bébelle noire. Là.
En néoprène, là?
En néoprène. Donc, tu en as, c'est vraiment des choses comme ça. Et au lieu d'avoir comme un filtre qui va en avant de l'objectif, c'est plus comme une casquette. Donc, qui fait que là, tu ne perds pas aucune qualité de ton objectif parce que tu n'as rien devant. Et là, ton néoprène, lui, va être à l'épreuve de l'eau. Et encore là, tu vas être capable d'avoir toutes tes manipulations. Donc, ça, c'est une autre bonne façon. Tu parlais des caissons. Bien, dépendamment des types d'appareils qu'on a, bien, évidemment, il va y avoir des différents caissons qui vont nous permettre d'aller soit jusqu'à, mettons, 15 mètres sous l'eau ou encore jusqu'à 30 mètres. Donc, c'est vraiment des caissons sous-marins. Mais il y en a qui sont vraiment... plus juste de protection. Et aussi, ben, il y a toutes les méthodes qu'on fait à la maison.
Do it by yourself, comme ils disent.
Ouais. Donc, tu parlais de quelqu'un qui va mettre du saran wrap après son système. Ben oui, ça peut être une façon. C'est juste qu'il faut s'assurer de ne pas avoir à bouger trop d'affaires. Parce que ça risque, quand on parle des fois les zooms, surtout si j'ai un zoom qui s'extensit. Quand je zoome avec, parce qu'il y en a, c'est un zoom interne, donc c'est plus embêtant. Mais si ton zoom sort, bien là, peut-être qu'il va en manquer. Donc, ça va te prendre un protecteur extensible.
Ça se vend, pas protecteur extensible ou le danger, c'est justement, là, quand on décide d'y aller en wrapant, donc vraiment une méthode, on va dire, artisanale qui n'est peut-être pas recommandée dans toutes les situations, ben, on se retrouve à limiter et se retrouver avec un objectif, des fois, qui va avoir un cadre, puis là, à ce moment-là, si on veut un zoom, bien, c'est nos deux pattes.
Oui. Et quand vous faites ça, assurez-vous vraiment de tout le temps vérifier, parce que s'il y a juste une petite entrée d'eau, des fois, ça ne paraît pas parce que tu regardes par-dessus, mais là, l'eau s'accumule en dessous. Donc, souvent, où il y a la porte de la pile, où il y a la porte pour les cartes mémoire, et c'est donc c'est là qu'il peut y avoir des contacts. Ce qui va être important quand vous allez revenir d'une sortie où il y a eu beaucoup d'humidité, ouvrez tout ça. Si vous avez des sacs de silicogel qu'on appelle, tu sais, qu'on retrouve dans les souliers, qu'on trouve dans n'importe quoi, des petits sacs qui absorbent l'humidité, prenez ça. Des sacs de riz.
Un bon ziploc rempli de riz.
Mais juste quelque chose qui va absorber l'humidité. Sinon, vous arrivez, vous gardez, vous mettez tout ouvert, tu sais, pour que l'humidité va sortir. Si vous avez eu des dégâts d'eau, mettez pas votre caméra on, je le sais, c'est pas bon. Assurez-vous, tu sais, quand vous n'êtes pas sûr, on touche à rien pour pas avoir de problème. Un parapluie, ça va être une bonne façon déjà de pouvoir faire votre photo, surtout si vous êtes sur trépied, vous avez votre parapluie par-dessus. Donc, ça va protéger votre appareil.
Ça peut même aussi, si on pousse la créativité, on peut utiliser les rebords du parapluie pour décorer un peu le cadrage.
Oui, oui, oui. Donc, c'est toujours d'être conscient de l'environnement dans lequel vous êtes, de ne pas vous empêcher de faire de la photo. Par contre, c'est sûr que si vous faites de la voile, bien là, ce n'est pas juste de l'eau qui tombe. Des fois, c'est des grosses vagues et là, c'est de la pression. Donc, c'est là qu'on va avoir des appareils différents. C'est pour ça qu'il y a des appareils comme l'étoffe de l'Olympus qui fait que ça, c'est vraiment fait pour aller dans l'eau pour avoir recevoir des vagues qui n'auront pas de problème par rapport à ça. Si vous avez un appareil standard, même si vous mettez un étui d'EM, je ferai attention justement quand je vais faire...
Ou une GoPro. Oui. Les nouvelles, là, bon, on n'a pas une grosse profondeur de champ, mais
c'est fait pour ça. C'est fait pour aller justement faire de la photo, de l'emmener n'importe où, de ne pas se stresser. Vous faites du kayak, vous faites de l'esquimotage avec ça, c'est le fun d'avoir ça. L'avantage d'une GoPro, c'est que vous pouvez en avoir deux, trois. Parce que souvent, on voit ça souvent dans les tournages, tu as une caméra qui est en avant, une en arrière, et souvent, ces appareils photo-là, ces GoPro-là, se commandent par le téléphone. Donc, assurez-vous que votre téléphone aussi soit résistant à l'eau.
Oui, ça serait une bonne idée.
C'est pas comme ça, parce que moi, si je mets une GoPro en avant de mon kayak, je ne suis pas capable de la rejoindre. Donc, je peux utiliser mon téléphone. D'après moi, ça sent la fin, ça va vite.
Oui, oui. Effectivement, encore une fois.
Empêchez-vous pas de faire de la photo si la température n'est pas belle, soyez juste bien équipé.
Puis en fait, même quand il fait mauvais, si on est minimalement bien équipé, c'est là que vous allez réussir à avoir une shot qui sort de l'ordinaire. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne sortent pas pour prendre des photos quand il pleut. Et vous pouvez faire à ce moment-là des maudites belles photos de réflexion, que ce soit sur l'écorce, que ce soit avec la rivière, avec les rondeaux, que ce soit sur la casquette de la personne que vous prenez en photo, le pelage ou les plumes des oiseaux. Mais on va conclure sur ça. Et encore une fois, François, de quelle façon est-ce qu'on peut te joindre rapidement?
Bien, sur Facebook, la façon la plus facile, François Desrosiers ou encore Dero Photographe. Puis juste pour revenir avec la pluie comme ça, c'est comme quand tu vas à pêche à la mouche, quand il fait soleil, t'as une mouche sèche, quand il mouille, t'as une mouche mouillée.
Une mouche noyée, effectivement. Oui, c'est ça. Donc, hey, un super de gros merci encore pour ta collaboration et on se dit à dans deux semaines.
Certainement, et faites du plein air, beau temps, mauvais temps, les amis.
Yes, bye.
Salut.
On s'imagine pas qu'il y a autant de familles qui mangent pas à leur faim au Québec. Cette année, j'ai décidé de donner de la viande de gibier pour venir en aide à des familles de ma région. C'est pas compliqué. Je dis à mon boucher la quantité que je veux donner et un organisme passe pour aller distribuer la viande aux familles dans le besoin. Chasseurs, soyez donc généreux.
C'est l'histoire de deux potes qui décident de partir ensemble en hiver pour faire Compostelle. Ben pourquoi? Sont-ils fous? Je vous explique tout ça. Ici Pascal Auger, journaliste, conférencier, formateur, secouriste certifié pour Québec Compostelle, qui est préparé, formé, inspiré pour marcher au Québec ou encore Compostelle, et instigateur, coordonnateur du chemin du Québec, 1200 km de rando communautaire entre Montréal et le bout du monde, c'est-à-dire le phare de Cap-Gaspé. Salut les passionnés! Bienvenue à notre rando-rencontre avec nos invités, un spécial 2 pour 1 aujourd'hui avec Paul et Guillaume, des Français, un qui est franco-canadien d'ailleurs, qui vont nous parler de leur aventure. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça en hiver? Est-ce que c'était un choix? Est-ce qu'il n'y avait pas le choix? Belle, belle, belle histoire des bonhommes. Donc, bienvenue à notre rando-rencontre que vous écoutez peut-être en direct à la radio, votre radio préférée ou encore en rediffusion via le podcast ou encore la chaîne YouTube de Québec Compostelle. On est là pour échanger sur la randonnée, vous aider à vous préparer un pas à la fois. Et c'est le cas de le dire, c'est pas un jeu de mots, c'est comme ça. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait la semaine dernière, il y a deux semaines environ. Alors, on était sur la variante Nord avec une dizaine de personnes, marché dans Charlevoix sur le chemin du Québec. Magnifique, du beau et bon temps. Ça vous tente de découvrir ça, la rando communautaire et les randos séjours. Quand on part comme ça, oui, on part une dizaine, vingtaine ensemble, mais on n'est jamais vraiment regroupés, à moins qu'on le désire. Il y a beaucoup de liberté, mais vous savez que je suis là. Je suis secouriste certifié, je vous accompagne, je vous donne plus de détails à la fin de notre séquence ensemble. Mais avant, on veut commencer à parler de cette belle aventure. C'est ce qu'on aime bien faire sur Compostelle, les circuits québécois, le chemin du Québec également. Et c'est ce qu'on fait à l'instant, donc, avec nos aventuriers, finalement, qui sont allés du mois de novembre 2019 à janvier 2020 faire Compostelle. Pourquoi? Bien, c'était là qu'ils avaient trouvé dans leur temps pour aller marcher
Donc, ce n'était pas tout à fait un choix, mais ils sont très, très contents. On les écoute au départ s'exprimer, nous dire qui ils sont et pourquoi ils ont fait ça. Et c'est Guillaume et Paul. Et c'est Paul qui commence à jaser.
Alors, je suis franco-canadien. J'ai fait mes études au Canada après mon baccalauréat, après mes 18 ans en France. Je suis venu travailler, je suis retourné en France pour travailler 3 ans dans tout ce qui est le financement digital des structures à but non lucratif. Et j'ai décidé là du coup de faire un sorte de break un peu dans ma vie pour faire des projets qui me tenaient à cœur comme Compostelle. Et voilà.
Alors, du coup, moi je suis français. Je suis pas né en France précisément, mais ça c'est une autre histoire. Et du coup, en fait, depuis tout petit, j'habite ici en Charente à Cognac. Et donc, du coup, je connais Paul depuis ce moment-là. Donc, ça fait pour le coup très très longtemps. Et moi, je suis toujours pratiquement resté en France pour mes études. J'ai terminé il y a pas très longtemps un master en commerce des vins et spiritueux.
Original
pour quelqu'un qui vient de Cognac.
J'en parle souvent à des gens qui vont partir en duo, en trio, en couple, en groupe, etc. Ces deux-là, c'est un duo. Ils se connaissent depuis qu'ils ont 6 mois. Fait qu'ils se connaissent quand même assez bien. Hein? Et ils me l'ont expliqué que quand l'autre avait besoin d'air et tout, donc c'est un beau duo finalement. Deux chums qui sont partis ensemble pour découvrir. Ils ont été scouts ensemble. Donc, c'est là un peu qu'ils ont pris la passion de la rando et du plein air, cette connaissance aussi de Compostelle. Et c'était un rêve commun pour faire le chemin. Ils voulaient donc s'y retrouver. Et là, ça tombait bien parce que chacun avait un contrat qui se terminait et ça leur permettait d'aller vivre le chemin. Il y a Guillaume qui, lui, avait déjà vécu des séquences pendant la saison plus estivale. Donc, ils savaient un petit peu de quoi ça avait l'air. Et selon eux, même s'ils n'ont pas vécu Compostelle à 100% pendant l'été, c'est un magnifique moment, sinon le meilleur moment d'aller marcher en hiver parce que, selon eux, il y a plus d'interactivité entre les gens.
Déjà, on se questionne, mais qu'est-ce que tu fais ici en hiver? Pourquoi est-ce que tu marches? Est-ce que t'es fou? Ou est-ce que t'as juste envie d'expérience? Et donc, du coup, le lien est vachement plus fort. Et en tout cas, je pense plus exclusif qu'en été où, voilà, bon, bah, des personnes, on va en croiser tous les jours. Et c'est vrai qu'au moment d'arriver, c'est vrai. En fait, il faut vraiment différencier les deux chemins entre la voie du puits et la voie du Camino Frances. Voilà, c'est complètement le jour et la nuit. On est d'un côté, on est vraiment perdu dans la nature, à s'extasier sur des paysages magnifiques, à prendre des coups durs, le froid, le chaud, rencontrer 2-3 personnes. Et là, on arrive sur le Camino Frances où, bah, à des moments, c'est des chemins, c'est des routes. Donc, on peut marcher à 5 de front.
C'est pas pareil.
C'est vraiment.
Après, les rencontres qu'on a fait sur la voie du puits ont été des rencontres magiques qui ont vraiment développé une relation à long terme. On continue vraiment beaucoup à échanger avec des gens. Il faut savoir qu'il y a au tout départ, sur la première semaine, on est parti, on était un petit groupe de 5 personnes.
Ouais.
Ils faisaient juste la première partie, une semaine, ils s'arrêtaient au village de Nazbinal. Et on a tellement créé de liens avec eux pendant cette semaine-là qu'ils sont revenus 2 mois après faire la dernière semaine avec nous. Ouais, c'est quand même fou. C'est quand même magique, là. Et on les a retrouvés 2 mois après. Et là, ils nous ont accompagnés jusqu'à la fin. Donc, c'était quand même magique.
Et je peux les rassurer, Paul et Guillaume, que cette magie existe même pendant la saison estivale. Je comprends qu'ils ont vécu des moments fantastiques. Puis, ils s'imaginent, c'est parce qu'ils étaient peu nombreux sur le chemin. Mais non, peu importe le nombre, c'est un chemin du bonheur. Hein? Ouais, ça a l'air kitsch quand je dis ça de même, là, mais c'est comme ça. Tout le monde arrive dans sa bulle de bonheur. Puis, c'est vraiment fantastique, peu importe la saison. Mais eux, ils ont décidé d'y aller en hiver. Bon, en hiver, ça se fait. Surtout en Espagne, il n'y en a pas de problème. Il y a quelques semaines de montagne, peut-être, là. Mais en France, encore faut-il, surtout dans l'Aubrac, faire attention. Ils nous expliquent d'ailleurs cette aventure.
Au point maximal de l'Aubrac, c'est pas très haut. En effet, on était à 1400. Le culminant est à 1450. Et en fait, étant donné que c'est des montagnes qui sont, bah, du coup, très, très vieilles, ça monte très doucement. Et en fait, les conditions sont pas, en termes de froid, sont pas forcément rudes. C'est-à-dire qu'on va pas atteindre, comme chez vous, des moins 25, des moins 30, comme en pleine tempête à Montréal ou ce genre de choses. Mais en fait, on peut très vite être surpris par déjà des journées courtes, donc la pénombre et le brouillard. Et quand on arrive, parce que nous, c'est ce qu'on a vécu en passant le mont Aubrac, c'est qu'on avait un espèce de blizzard constant et une espèce de brume constante. Et il y a des moments où le balisage, étant donné qu'il n'y avait pas grand-chose, hein, il y avait 10 cm de neige. Bon, à des moments, avec les congères, on en avait jusqu'au genou. Mais en fait, le balisage peut vite être perdu et c'est là où ça devient dangereux. Parce qu'une fois qu'on est perdu là-dedans, bah, au final, tout se ressemble un peu. Mm. Et voilà, c'est là où ça peut être dangereux. C'est-à-dire que si on est très bien équipé par des grands froids, Oui, mais le principal risque, c'est de se perdre.
C'est la plupart du temps, quand les gens me disent qu'ils font Compostelle l'hiver, ce que j'entends, c'est du temps maussade, beaucoup de pluie. Eux, plus de 80 % de beau temps. Température pendant qu'ils étaient en France, entre 0 et 10 degrés. Quand ils étaient en Espagne, entre 5 et 15 degrés. Écoute, tu sais, la température idéale pour aller marcher. Ils en sortent donc, évidemment, éblouis.
Mais je dirais chouette, introspectif, fraternel, si on le fait avec des personnes. Et je dirais une dernière phrase, il faut le faire en hiver absolument. Je pense que c'est la meilleure saison pour faire Compostelle.
Moi, je terminerai par, si quelqu'un doute de cette expérience, dans tous les cas, qu'il le tente. Parce que c'est assez incroyable et dans tous les cas, il en sortira grandi.
Alors voilà, ça tente de goûter à ça. Marcher au Québec ou encore Compostelle, ça tombe bien. Ça s'appelle Québec Compostelle. Ici, je t'aide de la tête aux pieds, des pieds jusqu'à la tête pour bien t'équiper, savoir où marcher, comment ça marche la rando, marcher, manger, dormir, le bon sac, le bon poids, la bonne grosseur, les bâtons, pourquoi des bâtons, les souliers, éviter les ampoules, tout ça avec une formation complète. Commence par devenir membre de Québec Compostelle. Dans chacune des formules membres, tu as une formation complète, donc de près de 6 heures. Je vais t'expliquer tout ça. Et en plus, tu as gratuitement la possibilité de venir faire des randos d'un jour qu'on appelle les randos initiation retrouvailles. Mais en plus, tu as toutes ces entrevues que je fais avec des passionnés de partout à travers le monde qui vont t'en apprendre davantage. Et par la suite, peut-être, ça te tentera de venir faire un rando, un week-end de formation rando en personne et éventuellement des randos séjours d'une semaine pour éventuellement prendre de l'autonomie et toi-même te lancer sur le chemin du Québec ou encore Compostelle. Alors, vois le calendrier sur québeccompostelle.com. Trouve ton atelier, trouve ton chemin. On est également sur Facebook, Instagram et YouTube. Québec Compostelle, ça marche.
Simplement plein air, c'est de la balado. Simplement plein air, c'est de la radio. Et maintenant, simplement plein air, c'est de la vidéo. Et oui, profitez-en pour visiter notre canal YouTube Simplement plein air et abonnez-vous. Après tout, Simplement plein air, c'est pour vous. Et voilà, on est de retour en studio et cette fois, bon, on va aller manger des petits fruits. Non, pas littéralement, mais on sait que notre prochain chroniqueur, c'est un gars qui aime le bois, et qui aime travailler du bois. Mais là, on va parler de petits fruits parce que c'est un de ses dadas. Hein? C'est quelque chose qu'il aime beaucoup, c'est la récolte de petits fruits. Il va nous en parler, mais il va aussi nous parler de, un, où les trouver, comment les trouver, comment ils se référencent. Et oui, pour les nouveaux, il s'agit de M. Guy Larochelle de la magnifique région de Rouyn-Noranda en Abitibi. Et pour ceux qui connaissent Guy, voilà, c'est Guy et qui est avec nous. Allô, Guy.
Salut, Guy.
Et oui, c'est ça que je disais là, en intro, justement. Les petits fruits sont une de tes passions. La récolte des petits fruits, je devrais dire, sont une de tes passions. Mais là, voilà que c'est pas si facile que ça a l'air. Hein? On dit, les petits fruits... mais tu sais, là, tu nous parles, tu veux nous parler de fraises, de framboises, de bleuets, de petits merisiers, de cerisiers à grappes, d'amélanchis ou aussi connus sous le nom de petites poires. C'est bien beau, tous ces noms-là. Mais comment qu'on fait pour retrouver notre latin là-dedans? Parce que toi, tu me l'as mentionné en ronde, il y a un système de référence que tu prends qui n'est pas nécessairement celle que les gens pensent. Là les gens, là, tout de suite, ils ont dit « Ah, c'est Google ». Mais c'est pas ça, là.
Non. Bien, moi, en fait, là, regarde, c'est pas compliqué. Quand j'ai commencé à étudier au cégep, puis on devait apprendre au moins 100 plantes. Puis notre référence, c'était la bonne vieille flore laurentienne de Marie-Victorin. Roger Larivière qui nous enseignait, vous achetez ça, vous avez besoin de ça pour nos cours. Et on parle de ça en 1981, quand j'ai débuté. Aujourd'hui, à la retraite, j'ai ressorti cette bonne vieille flore-là et je la traîne avec moi. C'est sûr que c'est à peu près le volume d'un dictionnaire. Là. Fait que c'est quand même assez volumineux, mais c'est une belle base de référence. Puis c'est encore d'actualité aujourd'hui. Les exemples qu'ils donnent là-dedans sont faciles. C'est le fun d'apprendre là-dedans.
Oui.
Alors, on va savoir avec la flore laurentienne où retrouver la fraise des champs, où retrouver la fraise qui pousse plus en forêt, mais comment les distinguer les deux, puis dans quelle période de l'année aussi. C'est sûr que c'est général, ça peut changer d'une région à l'autre au Québec.
Oui, puis là, tu viens juste de sonner une cloche. Les deux fraises, ça, c'est...
Il y en a deux fraises.
tu vois, là.
Oui, absolument. Il y en a un qui va pousser plus en forêt, et l'autre, c'est plus la fraise de champ là, qu'on retrouve dans les champs de cultivateurs le long des clôtures. Celle-là, elle est plus ronde, et l'autre est de forme plus allongée. La première que j'ai nommée la plus ronde, c'est la fraise de Virginie. Puis l'autre, pourquoi là, le nom, je peux aller dans le détail, pourquoi exactement Américain ou Virginie, mais c'est le fun de pouvoir, quand tu te retrouves devant un plant de fraise, bien, celle-là, c'est une Virginie, celle-là, c'est une Américaine. Bien oui, regardons ça, sont différentes. Ça, elles sont différentes, juste la façon qu'elles vont porter la petite graine sur la fraise comme telle, sur le fruit. Il y en a une qui va être vraiment dans la partie plus creuse de la fraise, et l'autre va être à la surface, elle flotte quasiment sur la fraise. C'est comme ça qu'on va les distinguer. Mais elles sont succulentes, toutes les deux.
Est-ce qu'elles sont aussi abondantes une que l'autre?
Je dirais que la fraise de champ est plus abondante à cause de la grandeur des champs, justement. Les bords de fossés, les bords de chemins forestiers, on va retrouver la fraise de champ. Et lorsqu'on entre plus dans les milieux boisés, plus couverts, on va retrouver l'américaine, qui est plus allongée.
Celle qui est plus allongée. Donc, en résumé, la fraise de champ, on la trouve dans des endroits un peu plus sablonneux aussi, où est-ce que la terre a été remuée, si on veut, là.
Oui, souvent, c'est les milieux perturbés là, pour l'ensemble des petits fruits que tu as nommés, Guy, tantôt. C'est souvent des milieux qui ont été perturbés, soit par les coforestières, les feux de forêt et l'agriculture aussi.
Ah, OK. C'est bon à savoir. Et mais naturellement, l'américaine, la fraise américaine, on la retrouve, elle, directement dans le bois. Et puis notre fameuse framboise. Là, dis-moi pas qu'il y a différentes sortes de framboises. Là.
Non, là, je parlais juste dans le temps, mais il y a différentes sortes. On va s'en tenir, disons, à la fraise sauvage, qui là, elle, on va la retrouver dans les parterres de coupe forestière. Milieu sablonneux et parfois aussi dans les milieux perturbés là, après les feux de forêt. Parce qu'on sait que la graine va rester enfouie dans la terre en attente d'une perturbation. Et là, elle va ressortir après, justement.
Oui, ça, c'est assez spécial. Hein,
ouais, que ça, c'est spécial.
Tout a une histoire, ça.
Oui, vas-y.
Oui, non, vas-y, mon cher, il y a une histoire derrière ça. Hein?
Oui, bien, c'est ça. Pour l'ensemble de ce qu'on vient de nommer tantôt, tous ces fruits-là qui font partie de la plupart des rosacées, la famille des rosacées, pour ce qui est de la fraise, la framboise, le petit merisier et le cerisier à grappe, ce sont des rosacées. Et le bleuet, c'est un éricacé. Ils vont demeurer enfouis dans le sol, en attente, qui ait assez de soleil, de lumière pour renaître et faire pousser des grands champs de ces merveilleux petits fruits.
Oui, puis c'est tellement intéressant, hein, parce que finalement, on y pense pas. On pense pas à ça. Tu sais, il y avait une forêt à un moment donné, il y a eu une coupe forestière. Naturellement, il y a du réaménagement là-dedans. C'est un petit peu... tu sais, mélanger un peu. Puis là, tout d'un coup, oups, quelques années plus tard, qu'est-ce qu'on voit? Des framboises apparaître, des bleuets apparaître, toutes sortes de petits fruits. C'est vraiment spécial.
Oui, puis là, ben, on revoit une forêt, disons, renaître. C'est les plantes qui vont venir remplacer ce qui dominait la forêt du territoire. Mm-hmm. Après perturbation, c'est eux autres qui vont nous donner là, pendant plusieurs années là, des fruits qui sont disponibles.
Et puis ça, Guy, pour la fraise comme telle, là, le temps de la récolte, je pense qu'on est à peu près dedans. Là, hein?
Oui, absolument. Je dirais que cette année-là, parce que normalement, la fraise, on la retrouve au mois de juin, à la Saint-Jean-Baptiste. C'est à peu près dans ce temps-là qu'on va retrouver la petite fraise. Et là, je dirais que c'est un petit peu plus tard, mais là, je parle vraiment ici, là, pour les endroits que j'ai fait ici autour de Rouen. Ça commence. Et là, on arrive en juillet, puis il y a des gens qui ont commencé. Au Témiscamingue, on peut en cueillir. Ici, ça commence. Autour de Rouen, là, ça commence bien.
OK. Donc là, ça là, est-ce que ça a un facteur sur les autres récoltes qui vont suivre? Parce que là, on dit qu'il y a un petit retard. Est-ce que tu crois que les autres auraient un petit retard ou ça pourrait se rattraper?
Bien, je crois que ça pourrait se rattraper parce que quand on regarde Hein? Tandis que le bleuet, le petit merisier, cerisier à grappe et la framboise, bien, dépendant de l'été qu'on a et de l'automne, bien, on peut cueillir jusque, parfois jusqu'en octobre. On est des fois à la chasse. Okay. Début octobre, on va encore manger des bleuets qui vont être très, très bons.
C'est ça. Hey, Guy, on s'était donné comme objectif de couvrir tous les autres petits fruits. On en a couvert un ou deux, hein? Même à peine le deuxième. Donc, on va y revenir parce qu'il y a quand même la framboise, le bleuet, le petit merisier, cerisier à grappe, la mélanchie et tout ça. Il faut les reconnaître et il faut savoir quand les récolter. Donc, la semaine prochaine, joignez-vous à nous. On va continuer dans ça parce que c'est fort intéressant. On découvre toujours. Hein? On découvre et puis c'est là qu'on voit que Guy est un passionné. Mais Guy, si on veut te suivre là, sur les réseaux sociaux, est-ce que tu es là?
Oui, sur ma page Facebook. J'ai commencé à mettre des petites choses là, concernant la cueillette. J'ai pris des photos pour distinguer le petit merisier, le cerisier à grappe. J'ai pris mes propres photos puis ce que je vais ajouter là, au cours de la semaine. Puis si les gens veulent me poser des questions par rapport à ça, bien,
allez-y, oui, absolument. Donc, nous, on rejoint Guy la semaine prochaine avec la suite. On va continuer, on va parler de la framboise, du bleuet et puis d'autres petits fruits comme le petit merisier et puis cerisier à grappe et la mélanchie aux petites poires. Donc là-dessus, moi, ben, je vous souhaite une bonne récolte. Soyez prudents et on se rejoint la semaine prochaine. Salut Guy, bonne récolte.
Salut, bonne semaine. Merci, bye.
Les balados diffusion Simplement plein air sont rendus possibles grâce à la participation des partenaires suivants.
Que ce soit pour vos animaux de compagnie ou vos animaux de ferme, la compétence porte un nom. Monsieur Bouffe, 25 Avenue Chaudière à Rouyn-Noranda, au 819-797-2564, point à la ligne.
Action Kia de Rouyn-Noranda pour un choix de véhicule neuf Kia adapté à vos besoins, mais aussi un véhicule d'occasion fiable, sécuritaire et certifié. Venez rencontrer notre équipe qui saura vous conseiller le bon véhicule, comme le Kia Sorento, offert avec traction avant ou intégrale. C'est la qualité à un prix incomparable pour ceux qui aiment en avoir plus pour leur argent. De plus, notre expert en crédit vous accompagnera pour faire la meilleure transaction possible. Action Kia, meilleure garantie et meilleur service au meilleur prix.
On s'imagine pas qu'il y a autant de familles qui mangent pas à leur faim au Québec. Cette année, j'ai décidé de donner de la viande de gibier pour venir en aide à des familles de ma région. C'est pas compliqué. Je dis à mon boucher la quantité que je veux donner et un organisme passe pour aller distribuer la viande aux familles dans le besoin. Chasseur, soyez donc généreux.
C'est ainsi que se termine une autre bonne balado de Simplement plein air. Mais ne vous en faites pas, nous serons de retour tous les lundis, mercredis et vendredis pour le plaisir de vos oreilles. Car après tout, les balados diffusion Simplement plein air, c'est une passion.